Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est l'émission Zone de Contact et Anthony Lefebvre qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Des navires chargés de blé russe gratuits pour le Burkina Faso et la République centrafricaine sont arrivés en Afrique. L'Afrique du Sud met en garde ses citoyens contre toute participation au combat dans Gaza. Le capitaine Ibrahim Traoré a nommé de nouveaux membres dans son gouvernement de transition. Et la Russie qui appelle à développer les relations financières au sein des BRICS. Quelques mois après la prise de pouvoir par des militaires au Niger, quelles sont les coulisses du retrait des soldats français du pays ? Le premier ministre nigérien de la transition a fait le point dans un entretien exclusif. Vladimir Poutine a rencontré Sergueï Choïgou au cours d'une réunion élargie au ministère de la Défense. Un analyste français analysera les déclarations du président russe. Sergueï Lavrov a déclaré récemment que la Russie contribuerait à la souveraineté des pays africains dans la gestion de leurs ressources naturelles. Un analyste et homme politique béninois réagira aux déclarations du chef de la diplomatie russe. Un bateau chargé de blé russe gratuit à destination du Burkina Faso a accosté dans un port d'Afrique de l'Ouest. C'est l'ambassade russe en Côte d'Ivoire qui en a fait l'annonce à Spoutnik Afrique. Les céréales sont actuellement en cours de déchargement. Depuis ce port de transit, elles seront ensuite acheminées par voie terrestre jusqu'à leur destination finale, a précisé l'instance. Ce n'est pas le seul navire chargé de blé russe à avoir jeté l'ancre dans un port africain. Un autre, qui livre également à titre gratuit des céréales en provenance de la Russie, vient également d'accoster à Yaoundé, au Cameroun. La cargaison prendra ensuite la direction de la République centrafricaine. Pour rappel, ces livraisons de blé font suite à une promesse du président russe Vladimir Poutine. Lors du sommet Russie-Afrique en juillet dernier, il avait promis d'expédier à titre gratuit des céréales russes à 6 pays africains. Si la Somalie a déjà reçu sa cargaison fin novembre, celles à destination du Mali, du Zimbabwe et de l'Érythrée arriveront dans un futur proche. Pretoria a mis en garde ses citoyens contre toute participation au combat à Gaza. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères et de la coopération a rappelé dans un communiqué que toute personne rejoignant Tsahal sans l'autorisation du Comité national de contrôle des armes conventionnelles enfreint la loi et peut être poursuivie. Pretoria rapporte également que la loi numéro 88 de 1995 sur la citoyenneté prévoit que toute personne qui a acquis la nationalité sud-africaine par naturalisation en est déchue si elle participe à des hostilités dans une armée d'un autre État. Le communiqué indique à cet égard que le gouvernement du pays est profondément préoccupé par des informations faisant état de la participation ou de plans d'engagement de certains citoyens et résidents permanents sud-africains dans les forces de défense israéliennes. Pour rappel, Pretoria a adopté une position très ferme à l'égard d'Israël suite au lancement d'une opération militaire de Tsahal dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque massive du Hamas sur Israël. Le Parlement sud-africain a même voté récemment pour la suspension des relations diplomatiques entre Pretoria et Tel Aviv. Le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement ministériel. Les changements ont été annoncés par la radiodiffusion télévision du Burkina. Ainsi, Karamogo Jean-Marie Traoré, qui était précédemment ministre délégué en charge de la coopération régionale, est nommé ministre des Affaires étrangères à la place d'Olivia Rwamba. C'est Stella Cabré qui récupère le poste de ministre délégué en charge de la coopération régionale. Simon-Pierre Boussim laisse son fauteuil de ministre de l'énergie, des mines et des carrières à Yacouba Zabré Gouba, tandis que Jacques Sosten Dingara, qui était précédemment secrétaire général du gouvernement, récupère le portefeuille ministériel de l'éducation nationale de Joseph Ouédraogo. Tous les autres membres du gouvernement ont conservé leur poste. Pour rappel, il s'agit du quatrième remaniement ministériel opéré par le capitaine Traoré depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre 2022. Les BRICS doivent développer davantage leur coopération financière. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Finances Anton Siluanov lors de la 9e réunion du dialogue financier Russie-Chine à Pékin. Selon le ministre, Moscou voit des possibilités de créer et d'élaborer un système indépendant de l'infrastructure financière puisque celle-ci ne répond pas toujours aux besoins des pays et en premier lieu de la Russie. Ce n'est pas la première fois que M. Siluanov interpelle le groupe des cinq, composé aujourd'hui du Brésil, de la Chine, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud sur les transactions financières. Le ministre a déclaré lors de l'exposition internationale Russia Expo 2023 à Moscou qu'une crypto-monnaie collective pour les BRICS pouvait régler le problème de convertibilité de certaines devises des pays membres du groupe lors de transactions financières internes. Pour rappel, dès le 1er janvier 2024, les BRICS deviendront BRICS Plus et comprendront en sus l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. L'Argentine devait aussi initialement rejoindre les BRICS, mais après l'élection du nouveau président Javier Milei, la ministre des Affaires étrangères du pays a annoncé que Buenos Aires n'adhérerait pas au groupe. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le 26 juillet 2023, des militaires au Niger ont déchu de ses pouvoirs le président Mohamed Bazoum. Ce dernier a été placé en résidence surveillée. Cet épisode a été particulièrement douloureux pour un pays qui n'a pas accepté ces événements survenus à Niamey. Paris a refusé de reconnaître la destitution de l'ex-président Mohamed Bazoum. Lorsque les militaires au pouvoir ont demandé à l'ambassadeur français en poste au Niger, Sylvain Ité, de quitter le pays, celui-ci, conformément à la demande du président français Emmanuel Macron, a refusé de s'exécuter. Finalement mis au fait accompli, Emmanuel Macron a fait marche arrière en septembre en rappelant l'ambassadeur et en annonçant le retrait de ses soldats stationnés au Niger. Sur le plan continental, c'est la CEDEAO qui a vivement réagi en imposant des sanctions contre le Niger tant que l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli. Pire, elle a laissé planer le spectre d'une intervention militaire dans le pays qui aurait eu des conséquences désastreuses pour la région. Si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semble pour le moment avoir renoncé à ce scénario, elle a récemment exclu Niamey de toute fonction décisionnelle de la CEDEAO et de facto reconnu que Mohamed Bazoum n'était plus au pouvoir lors de son dernier sommet d'Abuja. Au micro de Spoutnik Afrique, en exclusivité, le premier ministre nigérien de la transition, Ali Mahaman Lamine Zeyn, a fait le point sur ses dossiers chauds pour Niamey.
Monsieur le Premier ministre de la République du Niger, votre Excellence Ali Mahaman Lamine Zeyn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci.
Alors, le vice-ministre russe de la Défense a effectué récemment sa première visite à Niamey, durant laquelle des documents dans le cadre de renforcement de la coopération militaire ont été signés. Pourriez-vous nous expliquer comment envisagez-vous renforcer cette coopération militaire? Quel volet vous intéresse le plus?
Je vous remercie. Il faut dire de prime abord que ce n'est pas uniquement une coopération militaire. Avec la Fédération de la Russie, le Niger entretient une très très vieille coopération. Donc cette visite du vice-ministre de la Défense s'inscrit dans le cadre du renforcement et de l'approfondissement de cette coopération. Il faut rappeler que c'est en 1992 que l'URSS avait fermé son ambassade au Niger. Et 3 à 4 années plus tard, nous-mêmes, nous avons été amenés à fermer notre ambassade à Moscou. Mais cela n'a pas privé les deux pays à continuer à maintenir cette coopération puisqu'elle se traduisait par l'octroi des bourses d'études ou des étudiants sur le renforcement des capacités de médecins déjà formés dans ce pays et des ingénieurs agricoles qui également ont été très bien formés dans ce pays. Cette visite, nous la voyons sous cet angle d'une reprise et de son intensification. Et il est évident que sur le plan justement de la coopération militaire, notre pays, qui, vous savez, fait face depuis une dizaine d'années à un défi qui lui est imposé du terrorisme, essaie aussi de diversifier sa coopération et obtenir un peu le soutien de tous les pays amis. Et il faut rappeler que depuis 2007, j'étais au gouvernement de le président Tandja, paix à son âme, le Niger avait déjà fait l'acquisition d'appareils aériens et d'un certain nombre de matériels qui lui ont permis de venir à bout du banditisme à l'époque qui avait été déclenché. Et c'était sur la base d'une coopération tracée avec des documents et qui aujourd'hui sont réchauffés puisqu'il y a évidemment l'entretien de ces matériels qui se fait périodiquement. Donc encore une fois, il faut dire que le Niger et la Fédération de la Russie se retrouvent et nous essayons d'aller encore plus en avant dans tous les secteurs clés de l'économie et de la sécurité.
Oui, et vous pouvez préciser dans quel secteur, alors outre la défense, vous voyez renforcer la coopération et y a-t-il des visites de haut niveau prévues entre nos deux pays dans le futur?
Comme je vous l'ai dit, il y a la formation des étudiants qui se fait. Il y a le secteur agricole qui nous intéresse. On connaît très bien le niveau auquel se trouve aujourd'hui la Russie dans la production agricole. Notre pays est vaste et entend renforcer évidemment la coopération dans ce domaine. Nous avons également dans le domaine du commerce tout simplement revenir et intensifier les échanges et puis alors tout cela va se faire, je l'espère, se concrétiser dans les prochaines semaines où nous n'excluons pas nous-mêmes de nous rendre pour donner un cachet beaucoup plus important à cela.
Alors, nous vous attendons à Moscou. C'est bon. Et pour la question de l'abrogation de la loi relative à la sécurité, ça pourrait être pris comme une sorte de provocation par l'Union européenne. Alors, attendez-vous des mesures de l'Union européenne envers le Niger qui pourront nuire au pays?
C'est moins pour nous une provocation qu'une certaine injustice, ou même, je dirais, une injustice. L'Union européenne a pris la décision d'interrompre sa coopération avec le Niger en sanctionnant les populations au lendemain du coup d'État du 26 juillet, qui, vous savez, et je pense que vous avez été témoin vous aussi, de l'énorme engouement de la population. On tirerait un exemple très précis du choix que les Nigériens ont fait de se retrouver, de travailler sur leur unité, de travailler sur la nécessaire, indépendance et qu'ils ont décidé d'affirmer. Et donc, du coup, si l'Union européenne, qui nous a aidés depuis des années aujourd'hui, estime qu'elle doit interrompre sa coopération, grand bien lui en fasse. Ce n'est pas pour autant que nous allons nous accrocher à une coopération qui le plus souvent est assortie d'un certain nombre de conditionnalités qui tranchent avec nos valeurs. Et en cela, les Nigériens ont décidé de tourner le dos à toutes ces questions et je pense, je souhaite que la raison soit entendue et que s'ils le désirent, que nous puissions reprendre une coopération qui, cette fois-ci, devrait être fondée sur le respect mutuel.
Et alors récemment, plusieurs accords ont été dénoncés avec l'Union européenne et la France. Comptez-vous dénoncer d'autres accords dans le futur proche?
Nous ne sommes pas, ce n'est pas un jeu favori de dénonciation d'accords. Si les accords auxquels vous faites allusion ont été dénoncés, c'est tout à fait de manière réfléchie, de manière responsable. Et je suppose que vous faites allusion à cette loi de 2015 qui a appauvri totalement la région d'Agadez, qui est une région touristique et qui ne cadre pas bien avec la conception que les Sahéliens ont, c'est-à-dire la liberté d'aller et revenir. L'homme du désert, vous savez, dans sa tête, il n'y a pas de barrière, il faut être libre. Et puis, cette loi à laquelle vous faites allusion tranche également avec les dispositions de nos engagements vis-à-vis de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui consacre la libre circulation des personnes et des biens. Donc, son abrogation est venue à juste titre soulager une population, rétablir le respect que nous devons à notre peuple. Voilà.
Alors, le gouvernement du Niger a demandé le retrait des forces françaises. Les États-Unis, eux aussi, ont une présence militaire au Niger. Pourquoi la même décision n'était pas prise à la réunion?
Il aurait fallu peut-être poser la question aux Français. Mais c'est pas nous qui avions demandé aux Français de se retirer. Ils ont souverainement pris la décision à un moment où nous avions réellement besoin d'eux pour lutter contre le terrorisme, de mettre fin notre coopération militaire. Évidemment, cela s'est accompagné d'une prise de position qui tranche avec le respect qu'on doit à un peuple. La position condescendance et l'expression du mépris qui avait été exprimée par les autorités françaises ne méritait que nous prenions les décisions que nous avons eu à prendre pour demander à ce partenaire de partir de chez nous. Donc, si aujourd'hui vous me posez la question de savoir pourquoi pas les Américains, je crois que vous avez dû noter que l'attitude des Américains n'était pas belliqueuse à l'égard de notre peuple, mais notre peuple examine attentivement les conditions à l'intérieur desquelles nous devrions, à l'avenir, avoir des relations avec ce grand pays qui est un pays ami. Vous avez dû voir, nous avons reçu une responsable du gouvernement américain. Nous avons eu des échanges extrêmement francs. Nous avons affirmé notre souveraineté. Nous avons dit à ce pays, s'il le souhaitait, nous sommes tout à fait ouverts. Il devrait intégrer pour nous la nécessité de nous ouvrir à d'autres. Et vous savez, le Niger est un très très grand pays avec une très vieille civilisation qui accepte tout le monde, mais un pays qui insiste sur le nécessaire respect de sa culture, de ses traditions et de sa religion. Voilà ce que je peux vous dire à cet égard.
Et les États-Unis ont l'habitude de s'exprimer ouvertement contre une coopération avec la Russie et des autres pays. Alors, est-ce que le Niger subit une sorte de pression?
Je peux vous dire que plus personne ne viendra imposer quoi que ce soit au Niger. Les Nigériens ne pourront plus accepter cela. Nous avons franchi un cap où plus jamais personne ne viendra nous dicter ce que nous devons faire. Il faut bien que cela soit entendu. Terminé.
Bien, alors pour la CEDEAO, quel avancement y a-t-il vis-à-vis des pourparlers avec la CEDEAO, surtout suite à la décision de reconduire les sanctions?
La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais si vous regardez ces dernières années, plus particulièrement à l'égard du Niger, on ne parle plus d'économie, on a parlé de guerre, d'attaque, on a parlé de sanctions, de fermeture de frontières, de sanctions sur les médicaments, sur la nourriture. Ce sont des mesures qui ont été prises à l'emporte-pièce, des mesures qui sont iniques, qui sont inhumaines et qui sont tout à fait illégales. Parce que dans aucune disposition du traité de cette grande institution, vous ne retrouverez une sanction, moi je dirais même une punition, qui prévoit de fermer une frontière, de sanctionner un peuple, de lui empêcher d'avoir accès aux médicaments et de voir des cas de mort dans les centres de santé et ne pouvoir rien faire. Donc si la CEDEAO, en laquelle nous croyons encore, veut arriver à la résolution de ce chemin qu'elle a emprunté, bien entendu, le Niger est disposé, parce que nous avons contribué à créer cette organisation. Il ne faut jamais oublier que les différents présidents qui se sont succédés à la tête du Niger ont apporté une forte contribution dans la création de cette organisation. Et donc, nous avons accepté, évidemment, de poursuivre. C'est faire injustice à notre pays de dire que nous n'avons pas accepté de dialoguer depuis le premier jour. Il faut se dire que lorsque la décision a été prise de punir le Niger, personne ne n'a consulté les autorités. On aurait pu nous dire, OK, vous avez pris votre décision, restez là où vous êtes. On a accepté de parler. Et il y a eu plusieurs missions qui se sont déroulées ici. En réalité, la décision prise par le dernier sommet, c'est la désignation plus ou moins officielle du Togo et de la Sierra Leone pour nous approcher. Et vous avez dû suivre hier, il y a eu une mission, une première mission qui a eu lieu. Et en janvier, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous allons reprendre les échanges pour que très rapidement la CEDEAO se rende compte que ça, c'est d'abord contre-productif, c'est illégal. Et on se pose d'ailleurs la question... précisément ce qui allume le feu au sein de cette institution. Je parle bien des fonctionnaires. Est-ce qu'en rentrant chez eux, même au-delà d'eux, ils ont le courage de se regarder dans la glace et de dormir tranquille. Je pense qu'il faut très rapidement arriver à la levée de ces sanctions. Mais le Niger s'est frayé un chemin. Le Niger a décidé d'aller de l'avant et de travailler pour son peuple et pour la collectivité avec laquelle nous avons décidé de forger ensemble un destin commun.
Et est-ce que vous croyez que la menace de l'intervention militaire est toujours persistante?
Il ne faut pas se faire d'illusions. À tout moment, tout peut arriver. Mais rappelez-vous que nous avons une armée aguerrie, une armée qui est plus forte que les terroristes. Vous savez, ce que vous voyez à la tête de notre armée aujourd'hui, c'est la relève de l'armée nigérienne. Ce sont des officiers pleins de valeurs qui sont allés sur le terrain, qui ont démontré qu'ils sont capables de défendre notre territoire. Rappelez-vous qu'avant 2011, il n'y avait pas un seul soldat étranger sur notre territoire. Il n'y avait pas un seul terroriste sur notre territoire. Et les moyens que nous avions nous permettaient d'assurer la sécurité de l'ensemble de notre territoire. Donc, s'il advenait qu'un pays quelconque décide de nous attaquer, nous nous défendrons.
Alors, combien de temps le Niger pourra-t-il encore tenir ces sanctions?
Mais ces sanctions qui ne se justifient point, qui sont des sanctions illégales, inhumaines, et qui peut-être devraient conduire à ce qu'on qualifie réellement leur sens, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, certainement pèsent sur notre peuple. Ce sont des circonstances qui sont probablement conjoncturelles. Notre peuple a démontré qu'il est résilient. Notre peuple a compris que c'est tout à fait normal quand on fait un choix de ce type qu'on soit puni, mais que derrière cela sera la délivrance. Il y a un verset du Coran qui dit « Innama al-usri yusra »« Innama al-usri yusra » Derrière l'épreuve, il y a la délivrance. En tant que musulmans, à plus de 98%, nous sommes convaincus que cette punition sera derrière nous dans quelques temps, Inch'Allah.
Et est-ce que vous considérez peut-être demander une aide humanitaire à la Russie, puisque le président Poutine a déjà envoyé plusieurs pays africains, le Mali et le Burkina?
Vous savez, le président, le chef de l'État, le général Tchani, a reçu l'ambassadeur russe et la mission qui est arrivée. Et il a fait savoir que le Niger est un pays qui sait faire la différence entre l'aide toxique et l'aide qui doit nous permettre de nous affranchir de l'aide. Et il ne nous viendra pas à l'idée de toujours tendre la main. Il est évident que dans les échanges que nous avons au plus haut niveau, nous savons que ponctuellement, notre pays a besoin de l'apport de tous ses amis. Vous savez, on va peut-être pas rentrer dans les détails, quand il y avait, on va dire, meilleure fortune à un moment de l'existence de notre pays, nous avions accordé des aides à des voisins et au-delà. Et ce n'est jamais un complexe lorsque on est dans une adversité comme celle-là que nous puissions admettre que ponctuellement nous soyons soutenus. Mais le Niger entend développer une coopération bâtie sur le principe gagnant-gagnant avec la Fédération de la Russie qui est un grand pays et avec tous les autres pays épris de paix. C'est ça notre objectif.
Et alors, entre autres, la CEDEAO a demandé la libération de l'ancien président Bazoum. Considérez-vous cette demande en échange du levier des sanctions?
Je pense que c'est... Je vais renvoyer la question. Je vous ai parlé des morts qu'on enregistre dans les centres de santé par manque de médicaments. Dans certains, nous avons les chiffres. Nous avons 26 millions de Nigériens. Nous aurions voulu entendre la CEDEAO s'appesantir sur le cas et le sort de 26 millions de Nigériens qui éprouvent des difficultés en ce moment, rassurez-vous, le président déchu est en très bonne santé, son honorabilité et sa dignité sont strictement respectées, et le moment venu, comme l'a dit le chef de l'État, le général Tchani, sa situation sera clarifiée. Et souvenez-vous, tous les chefs d'État qui ont fait l'objet d'un renversement du régime, personne n'a eu autant de dégâts, je dirais, que le président déchu, M. Bazoum. Le président déchu est actuellement dans le palais présidentiel. Si vous faites un tour pour voir là où loge le chef de l'État, il a gardé sa maison, je dirais son célibatarium de chef de la garde présidentielle. Tout ça pour démontrer notre bonne foi et le respect que nous devons à ceux qui ont eu à diriger, même si c'est pour un jour, notre pays. Okay. Voilà ma réponse.
À l'issue des réunions ministérielles à Bamako, dans le cadre de l'AES, la création d'une confédération des trois pays a été recommandée. Alors, est-ce que cette recommandation est prise en considération par Excellence le Président Tchani et dans quel délai ça peut être implémenté?
Le Président Tchani a soutenu le rechauffement des relations entre les trois pays. Il ne faut jamais oublier que l'AES repose sur ce qu'on appelle l'autorité du Luptako Gourma qui existe depuis les années 70. Le Niger, le Mali et le Burkina sont des pays frères liés, comme on dit, par l'histoire et surtout la géographie. La géographie qui les confine dans une posture des pays de l'interland, c'est-à-dire les pays n'ayant pas accès à la mer. Alors, très tôt, les pères des indépendances se sont réunis pour créer l'ALG, et l'ALG est devenue l'AES aujourd'hui. Et l'AES, en fait, est venue compléter tout ce qui existait déjà et qui dormait, que nous devons réveiller, avec le principe de nous défendre, donc les questions de défense et de sécurité. Donc, c'est un renforcement de cette organisation qui existe, bien sûr, depuis les années 70. Et donc, ne soyez pas étonnés que le président Tchani renforce ce taxe-là. Et vous avez vu voir, il a dû faire un déplacement pour aller remercier ces deux pays, le Burkina et le Mali. Il faut le répéter, ce n'est jamais assez, qui ont posé deux actes importants. Le premier, c'était refuser d'appliquer les mesures dont on a parlé, la punition contre le Niger. Et ces deux pays ont clairement fait savoir que si le Niger est attaqué, il se mettrait également en rang de bataille pour défendre notre pays. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est trois frères jumeaux. Mais il faut pas oublier aussi, il faut rendre justice à des pays comme le Tchad, qui avait refusé de s'associer à une opération de démolition. Et le Tchad, très tôt, a fait savoir qui ne prenaient pas part à une attaque contre le Niger. Parce que vous savez, sur toutes ces frontières, ce sont des parents de part et d'autre. Et donc, pour nous, l'AES, c'est un choix que nous avons fait librement et qui participe de cette décision de nous affranchir et d'aller vers vraiment l'affirmation de notre souveraineté.
Alors, il va y avoir une sorte de confédération dans un futur.
Vous savez, le ou la rail, pourvu que le train roule, ce que nous fixons, c'est développer nos pays, c'est faire en sorte que les fils de ces pays connaissent le minimum, c'est-à-dire une bonne formation, du travail, la sécurité, la paix. Nos pays ne cherchent pas à aller, pour l'instant, dans l'espace. On cherche simplement à sécuriser nos territoires, à développer les liens séculaires qui existent entre nos peuples et à faire en sorte qu'on ne vienne pas nous imposer des choses que nous n'avons pas prévu de faire. C'est tout.
Bon, merci beaucoup, Votre Excellence. C'était toutes mes questions. Alors, si vous avez quelque chose encore à ajouter.
Non, je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais vous remercier, profiter de votre micro pour dire encore une fois à notre peuple, qui s'est levé comme un seul homme pour dire non à l'injustice, pour dire non aux incursions, pour dire non à tout ce qui touche à sa souveraineté, à sa dignité. Et ce peuple qui est resté encore debout à ce jour, vous voyez, depuis le 26 juillet, ce peuple qui a accepté d'endurer ponctuellement, mais ce peuple qui sera un peuple debout encore et qui va bénéficier de toutes les ressources qui vont être exploitées. Parce que c'est ça aussi le but. Dans un processus de bonne gouvernance, aucun franc, je dis bien aucun franc, Inch'Allah, ne prendra une autre voie que celle de servir loyalement et de rendre compte à ce peuple-là. Et puis, il ne faut jamais oublier, nous sommes des croyants, de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je voudrais profiter de ça et rassurer tous nos partenaires que nous sommes un pays épris de paix. Nous souhaitons que très rapidement nous renouions et que les choses... Nous comptons moins de pays hostiles. On peut les compter sur les bouts de doigts. Et ces pays-là, nous demandons qu'ils tiennent compte de cette vague de population qu'ils voient tous les soirs dans les 8 régions du Niger pour savoir que ce n'est pas une affaire... C'est pas des plaisanteries. Voilà, merci beaucoup.
C'était Ali Mahaman Lamine Zeyn, Premier ministre nigérien de la transition en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur les dossiers chauds du moment pour Niamey, quelques mois après la destitution de Mohamed Bazoum du pouvoir. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Vladimir Poutine s'est rendu au ministère de la Défense pour présider une réunion élargie. Il y a rencontré son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Cette rencontre a pour but de faire le bilan de l'année écoulée, de formuler des tâches pour les forces armées en 2024 et de définir les priorités du développement ultérieur de la marine et de l'armée russe. Au cours de cette réunion, Vladimir Poutine a fait quelques déclarations clés. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite.
L'OTAN continue d'être actif avec des efforts significatifs et de l'aide des États-Unis, y compris sur le plan technique et aérien. La Finlande, comme nous le savons, a adhéré à l'OTAN. La Suède prévoit de le faire. Et donc l'alliance se rapproche de nos frontières. Je rappelle, et nous le savons tous, ils avaient promis à Gorbatchev en 91 qu'ils ne le feront pas. Et maintenant, ils le font. Voilà les partenaires que nous avons. Donc, le bloc s'exprime de façon agressive. Et on nous dit que c'est une organisation politique et que ce n'est pas une organisation militaire. Et on n'a accusé personne, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, avec un caractère agressif, ce caractère agressif n'est pas caché. Les États-Unis augmentent leurs prétentions en matière de conquête mondiale. Ils ont des objectifs et ils ne renoncent pas à leurs objectifs d'agression. Et c'est pourquoi l'objectif de l'opération spéciale, les objectifs seront tenus et nous n'y renoncerons pas. Nous pouvons dire que nos troupes ont l'initiative. Nous faisons ce que nous voulons et ce que nous pensons juste de faire. Avec le commandement, tout le monde considère que les objectifs donc seront remplis. Là où c'est nécessaire, nous améliorons nos positions. L'adversaire subit des pertes très lourdes. Épuiser une grande partie de ses réserves, avec quel résultat? On l'a vu pour la contre-offensive. Il y a eu également des tentatives, et toutes les tentatives de défaite stratégique se sont brisées sur le courage de nos soldats. Le potentiel industriel et la production de défense a chez nous augmenté et s'est renforcée.
Durant cette réunion élargie, Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a présenté un rapport au président russe et le chef de l'État a pris connaissance des nouveaux modèles d'armement et de munitions. Écoutons tout de suite le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.
Monsieur le commandant en chef, je voudrais commencer par les résultats de l'opération militaire spéciale. Les groupements armés ont multiplié par 5 la surface du territoire des régions de Donetsk et Lugansk par rapport au début de l'opération militaire spéciale. Et nous sommes à plus de 83 000 km² et ça représente une population de 5 millions de kilomètres. Et les forces intérieures ont réussi à prendre les territoires en bordure de la mer d'Azov et cela a pu constituer un corridor routier et ferroviaire vers la Crimée.
Pour analyser les déclarations du président russe, je me suis entretenu avec Xavier Moreau, analyste français, fondateur du Centre d'analyse politico-stratégique StratPol.
Alors on a Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou qui, au cours d'une réunion élargie du ministère de la Défense ce 19 novembre, ont déclaré que l'opération spéciale militaire durerait jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints et que la contre-offensive ukrainienne avait échoué. On a appris également que Kiev avait perdu 159 000 personnes qui ont été tuées et blessées de la part du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Comment pouvez-vous commenter cela ?
Vladimir Poutine l'a répété, il l'a dit, si je me souviens bien également, pendant la grande conférence de presse, il l'a dit à plusieurs reprises que les objectifs devraient être atteints. Et les deux objectifs qui sont cités, c'est donc la démilitarisation. Bon, en gros, on peut dire que c'est fait. Le complexe militant industriel ukrainien n'existe plus. D'ailleurs, c'était le conseiller de Zelensky à l'époque, Arestovitch, qui l'avait dit fin mars, début avril 2022. Donc c'est quelque chose, un objectif qui a été atteint quasiment au début. Après, évidemment, il y a du matériel qui a été livré par les Occidentaux, mais c'est une chose d'avoir du matériel, c'en est une autre d'en fabriquer. Aujourd'hui, à part assembler quelques drones, l'industrie ukrainienne n'existe plus, l'industrie militaire. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint, on peut dire. L'autre objectif, c'est la dénazification. Et donc ça, en fait, c'est plutôt, pour parler plus précis, c'est la débandérisation, c'est-à-dire le culte des collaborationnistes de la Deuxième Guerre mondiale doit être terminé, et la langue russe doit cesser d'être persécutée, et les Russes d'Ukraine. D'ailleurs, c'est intéressant aussi que Vladimir Poutine l'a précisé, de dire qu'en fait, dans le sud-est de l'Ukraine, ce sont des Russes qui y habitent. Donc voilà, ça c'est aussi, alors c'est un objectif non dit officiellement, c'est ce qui est clair, c'est que la Russie vise Kharkov et Odessa. Et d'ailleurs les Ukrainiens le savent, l'origine de Kiev le sait. Donc Vladimir Poutine a répété encore que Odessa était une ville russe, il l'avait dit à Valdaï. Donc là ça veut dire que effectivement les objectifs territoriaux risquent de changer. Non seulement d'achever la conquête des quatre régions qui ont été réunifiées l'automne dernier, mais également d'atteindre la mer Noire et de bloquer la mer Noire, en fait. Voilà, c'est ça, aujourd'hui, en fait, c'est ça les objectifs.
Vladimir Poutine a également pointé le rôle des USA dans le conflit ukrainien en qualifiant les hommes politiques européens d'impuissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture et comment voyez-vous le rôle de Washington dans ce conflit en Ukraine ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez, il faut voir une chose, c'est que la démarche de Washington n'est pas irrationnelle en Ukraine. Si on considère que l'un des buts de guerre des États-Unis, c'est de couper la Russie du reste de l'Europe, et notamment dans le domaine énergétique, puisque la compétitivité de l'industrie, essentiellement allemande, dépend de l'accès à une énergie bon marché. Et là, cet objectif a été atteint. C'est pour ça que vous voyez encore, vous avez un 12e, 13e, 14e, 15e paquet de sanctions. pour créer un système de sanctions qui soit difficile à détricoter après la guerre. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que les Russes vont gagner. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, c'est cet objectif de guerre, ce but de guerre, qui est de détruire l'économie européenne, a été atteint par Washington. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Washington, c'est un acteur irrationnel. En revanche, les Européens, eux, sont des acteurs irrationnels, parce qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied. C'est même plus que dans le pied, ils se coupent une jambe. Et donc ça, c'est purement irrationnel. C'est fait parce que ce sont des États esclaves, comme disent les anglo-saxons, slave states, et qu'ils sont totalement soumis par idéologie ou par peur, ou par corruption, ou par manipulation, chantage, ce que vous voulez, les élites européennes sont soumises à Washington, qui leur fait prendre des décisions qui vont contre leurs intérêts. Donc effectivement, on a très bien vu d'ailleurs quand Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à parler à la France si elle en avait envie, contrairement à ce qu'a cru comprendre Emmanuel Macron, il n'invitait pas Emmanuel Macron à devenir intermédiaire dans la résolution de l'affaire ukrainienne. L'affaire ukrainienne finira par se résoudre par un accord entre Washington et Moscou. Mais Paris et Berlin sont désormais hors du jeu.
L'Occident a fourni, comme on le sait, une grande quantité d'armes à l'Ukraine, mais cela n'a pas aidé Kiev à inverser le rapport des forces sur le champ de bataille. Et en guise de résultat, la mer d'Azov est devenue la mer intérieure de la Russie. On voit peu à peu les résultats de ces livraisons. On voit peu les résultats de ces livraisons. Et selon vous, pourquoi l'Occident continue d'armer l'Ukraine ?
Je pense que l'Occident voudrait le plan de l'Occident, disons de Washington, puisque c'est vraiment Washington qui décide et Londres qui est un peu son proxy en Europe, n'était pas de vaincre militairement la Russie. Je pense que personne au Pentagone n'est suffisamment stupide pour croire que la Russie ait pu être vaincue sur le champ de bataille. L'idée, c'était de faire durer la guerre plusieurs mois, disons entre 3 et 6 mois, et qu'avec les sanctions économiques, la Russie s'effondrerait. Il y aurait des manifestations, qu'en gros, Navalny serait président et que la Russie serait découpée en morceaux. C'était ça l'idée. Et donc, en fait, c'est le plan qui a été suivi, puis il est apparu assez rapidement, à l'été 2022, que la Russie ne s'écroulerait pas militairement, et maintenant, on voit que c'est elle qui va gagner la guerre. Donc, l'idée, là, toujours, c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible, en espérant que ça finira par toucher la Russie économiquement et donc politiquement. Et surtout, comme je l'ai dit, pour pouvoir prendre le plus de paquets de sanctions possible. Parce que si par hasard, au lendemain de la victoire russe, les sanctions en plus sont levées par Berlin, et c'est Berlin qui décidera, là c'est un échec complet pour Washington. Donc l'enjeu il est là. Le but, c'est de livrer les armes pour que la guerre dure le plus longtemps possible. Même si on sait pertinemment depuis le début que les Kieviens vont la perdre. Et donc le problème, c'est que aujourd'hui Kiev a besoin de deux choses que les Occidentaux ne peuvent pas leur donner. C'est des munitions et des hommes. Et le problème fondamental depuis le début, c'est ça, c'est que on n'est plus au 19e siècle. Hein, pendant la guerre de Crimée en 1853-1856, la France avait envoyé 315 000 hommes. Elle en a perdu, je crois, 95 000. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ni l'Angleterre, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni la France n'en verront leurs soldats mourir en masse pour une cause qui finalement ne les intéresse pas et surtout pour la France ne met pas en jeu leur capacité, je dirais, leurs intérêts directs du point de vue géopolitique.
Dernière question, le mythe de l'invulnérabilité du matériel militaire occidental s'est effondré, comme a souligné Vladimir Poutine à cette occasion. Et peut-on dire, selon vous, que l'Occident a obtenu le résultat qu'il souhaitait en soutenant l'Ukraine dans ce conflit ?
Non, c'est une véritable catastrophe du point de vue des armes pour les Occidentaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on fait un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les armes de l'OTAN ont les mêmes tares que les armes de l'armée allemande. Les chars sont trop lourds, ils sont trop hauts. Ils sont trop durs à maintenir, durs à évacuer du champ de bataille parce qu'ils sont trop lourds. Donc il y avait et surtout ils coûtent très cher à la maintenance. Il y a trop d'électronique et ça en fait des espèces de bijoux qui sont qu'aujourd'hui d'ailleurs les Anglais on ne voit plus du tout de Challenger, on ne voit plus du tout d'Abrams, on n'a toujours pas vu d'Abrams parce que en fait il est clair que Washington et Londres ont demandé aux Ukrainiens d'arrêter de les utiliser. Parce que ça coûtait trop cher, parce que c'est pour l'image du complexe militaro-industriel, c'est une véritable catastrophe. Donc là, oui, Vladimir Poutine a tout à fait raison. Et je pense qu'au contraire, ce à quoi on va assister dans les années qui vont venir, c'est une ruée mondiale sur les armes russes, qui ont montré non seulement leur supériorité dans le combat réel, mais aussi leur capacité à s'adapter extrêmement vite aux nouvelles menaces. Les drones, par exemple, les questions également, on a assisté à quelque chose, mais qui d'ailleurs était noté par les spécialistes avant même l'opération militaire spéciale, c'était la supériorité de la guerre électronique russe. Et là, on s'aperçoit à quel point elle domine totalement. La supériorité du système de réseau de la DCA russe, la défense antiaérienne, qui n'a absolument aucun, qu'on peut comparer à aucun autre au monde. Voilà, donc c'est vraiment une véritable humiliation pour les complexes militaro-industriels occidentaux.
C'était Xavier Moreau, analyste français, fondateur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les déclarations du président russe Vladimir Poutine à l'occasion d'une réunion élargie du ministère de la Défense afin de faire le bilan de l'année écoulée. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Sergueï Lavrov a déclaré récemment que la Russie va aider les pays africains à acquérir un contrôle indépendant sur l'extraction et le développement de leurs ressources. Le ministre russe des Affaires étrangères s'était exprimé dans le cadre d'un discours aux participants à la cérémonie d'ouverture du Congrès international « L'Afrique cherche des solutions » à l'École des mines de Saint-Pétersbourg. C'est justement avec cet établissement que 9 pays africains ont créé un consortium éducatif. Des spécialistes dans le domaine minier y seront éduqués et des professeurs russes participeront à des programmes de formation spécialisés dans les pays africains. Au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Bertin Kohovi, analyste et homme politique béninois, est revenu sur les récentes déclarations de Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie est intéressée à contribuer à ce que les pays africains contrôlent et gèrent eux-mêmes leurs ressources naturelles. À quel point ce problème est-il d'actualité pour l'Afrique et pour votre pays ?
Le ministre Sergueï Lavrov, qui est un diplomate, un éminent diplomate, et qui connaît les problèmes du monde, fait montre de connaissance des problèmes auxquels l'Afrique, en général, est confrontée. Oui, l'Afrique a besoin de transformer ses minerais, ces matières premières en Afrique. C'est la seule et unique condition pour créer de l'emploi, pour créer de la plus-value, créer de la richesse sur le continent africain. Ça n'a pas de sens que l'Afrique exporte seulement ses matières premières en l'état et que les autres aillent usiner ces matières premières-là et en sortent des produits finis. Je voudrais vous donner l'exemple de la Guinée-Conakry. Grand producteur de bauxite, mais le prix auquel on leur achète leur bauxite ne fait même pas 10% du prix de l'aluminium. C'est pas normal. Ce qui fait que la Guinée reste un pays pauvre, pourtant qui alimente le monde dans un minerai stratégique. Pour ce qui concerne mon pays, le Bénin fait partie de l'Afrique, et le même problème se pose. Mais alors, il y a un préalable. Si la Russie veut réellement aider nos pays à avoir une indépendance économique, il faut d'abord l'énergie. Toute tentative de libérer l'Afrique de l'impérialisme doit pousser la Russie à nous donner une capacité d'électrification. Le Niger, Dieu merci, est grand producteur d'uranium. Eh bien, la Russie doit aider à installer des centrales nucléaires sur le continent africain. C'est tant que la Russie veut réellement nous aider dans ce sens de l'indépendance économique, du contrôle de nos matières premières.
Cette annonce de Lavrov vient après la mise en service de l'oléoduc géant Niger-Bénin. Quel bénéfice ce projet va-t-il donner aux deux pays et à toute la sous-région? Et peut-on le qualifier de stratégique?
Le ministre Sergueï Lavrov a tenu ses propos après que le Niger ait lancé son pipeline le 1er novembre. C'est vrai, le Bénin bénéficie du droit de passage du pétrole brut nigérien sur son territoire. Donc il y a des royalties qu'on paye au Bénin. Mais il faut savoir raison garder. 90 000 barils jour, ce n'est pas grande chose. Le Nigeria produit plus de 1 million, parfois 2 millions de barils par jour. Le Niger a commencé un petit pas, mais un pas quand même. Et le potentiel géologique du Niger laisse croire que l'avenir est prometteur. Parce que 90% du territoire nigérien est un bassin sédimentaire. Donc plus de 1 million de kilomètres carrés est un bassin sédimentaire. Donc potentiellement pouvant contenir du pétrole. Mais pour le moment, le pétrole actuel du Niger ne changera pas grande chose à la situation de la région. Ce pétrole n'est pas encore stratégique. Ce n'est pas un game changer, comme on dit. Par contre, le pipeline qui est construit est un game changer pour l'avenir. Quand le Niger va découvrir ou va mettre en exploitation d'autres gisements, oui, cela pourrait s'accroître. Le Bénin gagne quand même de l'argent par le droit de passage. Le Niger lui-même, sur les 90 000 barils, a en réalité 25,4%. Ce qui fait 22 860 barils par jour. C'est ce qui revient au Niger dans les 90 000 barils qu'on produit. C'est beaucoup, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui va changer la situation économique du Niger du jour au lendemain. Mais c'est une bonne chose.
Le général Tiani a dit que la volonté de son pays est de commercialiser du pétrole brut pour traiter le brut nigérien sur le sol nigérien. Comment la Russie peut-elle aider les pays africains à obtenir la souveraineté dans ce domaine et l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur?
Dans l'interview que le général Abdrahmane Tiani, président du Niger depuis le 26 juillet 2023, a donné à la télévision Télé Sahel, télévision nationale du Niger, il a émis l'objectif du Niger, non seulement exporter le pétrole brut, mais il a dit que le Niger devrait construire une nouvelle raffinerie qui puisse raffiner son pétrole au Niger afin de créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, créer l'enrichissement au Niger, au lieu d'exporter son pétrole brut et ne pas gagner la plus-value que le raffinage permet d'avoir. À ma qualité d'économiste fondamentaliste, attaché à l'Université d'État d'économie de Yekaterinbourg en Oural, je veux dire que le général Abdrahmane Tiani, président du Niger, a vu juste et a raison. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que la Russie peut faire, la Russie a une grande expérience dans le raffinage du pétrole. Donc, la Russie peut aider à construire une raffinerie au Niger afin de pouvoir raffiner ce pétrole-là. Oui, la Russie, dans une relation stratégique, peut aider à cela. Mais alors, comme je l'ai dit tantôt, la première des choses que la Russie devrait faire pour être utile au continent africain, c'est la capacité d'avoir de l'électricité en quantité afin d'aller à l'industrialisation. Car l'industrie, c'est quoi? La première condition pour l'industrie, c'est la disponibilité de l'énergie, de l'électricité. Sans électricité, ben, il n'y a pas d'industrie. Donc, la Russie doit aider l'Afrique à accéder à l'électricité nucléaire. C'est important. Et le Niger est le plus grand producteur d'uranium, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Et c'est pas pour les autres pays. Voilà ce à quoi la Russie peut participer, par exemple.
La plupart des pays africains sont de gros producteurs de matières premières exportées, principalement vers les pays occidentaux. Pourquoi depuis des décennies, les compagnies occidentales n'ont pas construit les entreprises de transformation sur le continent, selon vous?
Je veux prendre par exemple le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux premiers producteurs de cacao au monde. Et ben pourquoi les usines n'ont pas installé d'unités de transformation du cacao en beurre à cacao et par la suite chocolat? Je veux prendre la RDC, qui a beaucoup de minerais, mais qui sont sortis de la RDC brut et qui sont usinés ailleurs. Je veux prendre Guinée-Conakry, premier producteur de bauxite, en tout cas en Afrique, mais rien n'est transformé sur place. Oui, c'est simple. C'est l'impérialisme qui continue toujours. Parce qu'en fait, l'impérialisme a mis l'Afrique dans le rôle de pourvoyeuse de matières premières. Mais l'Afrique doit nourrir les industries européennes, les industries du monde. L'impérialisme nous a mis dans un schéma où nous devons rester sous-développés tout le temps, pourvoyeurs de matières premières, mais jamais industrialisés. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'Afrique et l'Asie, au fait? L'Asie a vite compris qu'il faut aller à la transformation des matières premières, il faut aller à l'industrialisation. Mais la différence entre l'Asie et l'Afrique, c'est que l'Afrique a tout, mais ne transforme rien. L'Asie n'a rien et transforme tout. Si la chance qui a été donnée à la Chine dans les années 80, mais cette chance-là a été donnée au Nigeria ou les Américains, parce qu'on parle de la Chine, mais il ne faut pas oublier que les Américains ont joué un grand rôle. Si les Américains avaient choisi, par exemple, le Nigeria, mais pour être leur pays-usine, où on venait installer les usines pour transformer et produire à bon prix parce que la main d'œuvre est moins chère, je crois que le Nigeria serait très loin aujourd'hui. Donc oui, c'est une politique savamment et librement organisée. L'Afrique doit rester pauvre, pourvoyeuse de matières premières, mais jamais industrialisée. Avec la Russie, nous espérons que la Russie, qui a décidé de nous accompagner dans notre émancipation économique, travaillera, je le dirai jamais assez, à d'abord la disponibilité de l'électricité qu'on peut utiliser en industrie. Je ne parle pas du solaire, hein. Vous savez bien que le photovoltaïque ne permet pas de faire de l'industrialisation. Il nous faut de l'énergie thermique ou bien de l'énergie hydroélectrique ou bien de l'énergie nucléaire. Si la Russie accepte de jouer ce rôle-là réellement, comme le laisse entendre Sergueï Lavrov, eh bien oui, la Russie nous aura aidé vraiment à nous émanciper, à nous développer. Donc, ce n'est pas une surprise, les Européens ont continué l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est dire que pour son propre bien, il fallait que l'Afrique restât pauvre, non industrialisée.
C'était le docteur Bertin Kohovi, analyste homme politique béninois pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les récentes déclarations de Sergueï Lavrov sur la volonté de Moscou à contribuer à la souveraineté des pays africains dans la gestion de leurs ressources naturelles. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre compte Telegram Spoutnik Afrique officiel pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.